On reprendra donc en septembre maintenant. Et on va essayer aujourd'hui de terminer l'histoire du protestantisme pour pouvoir commencer à la rentrée le catholicisme. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le post-bultmannisme et les courants théologiques jusqu'à nos jours. Bultmann a eu une très très grande influence sur tous ceux qui sont venus après lui, même si un certain nombre de gens sont revenus des excès qui avaient été les siens. Mais pendant les premières années qui ont suivi les travaux de Bultmann, nombre de ses disciples ont voulu surpasser leur maître et se sont mis alors à démythologiser la Bible à tour de bras, n'est-ce pas ? Et là, on a abouti à des choses absolument aberrantes, tellement excessives d'ailleurs que finalement, il a fini par y avoir un certain retour du balancier. L'idée et force de tous les post-bultmanniens était finalement celle de Bultmann, à savoir que le christianisme n'était rien d'autre en fait que des idées, universelles, des principes universels, moraux, religieux, spirituels, qui sont communs à toutes les religions et qui sont issus essentiellement de l'hellénisme. Ça, c'était le gros point de Bultmann, n'est-ce pas ? Le christianisme est une réalité hellénistique et non pas une réalité juive. Et ce faisant, les évangélistes avaient habillé la sagesse hellénistique, la sagesse grecque, la philosophie grecque, à partir de, si vous voulez, avec des oripeaux juifs. Ils avaient essayé de broder une histoire, etc. Donc le mythe et le but des théologiens était de dégager justement cette sagesse universelle de sa gang mythique, et tout ce qui était juif était mythique, hein, pour retrouver les principes universels qui pourraient faire l'unanimité du monde entier. On voit tout de suite tout ce que cette pensée avait de séduisant, et en même temps aussi tout ce qu'elle avait de redoutable, puisque là, en fin de compte, c'est un antisémitisme ou un anti-judaïsme rebouilli, un martionnisme finalement, on retrouve ici Marcion, qui voulait absolument déjudaïser la Bible. C'est la vieille tentation qu'on trouve constamment, c'est pas dans le christianisme, et qui avait ici abouti à un des sommets de la théologie de la substitution, telle qu'on la trouve à toutes les époques dans l'histoire de l'Église, mais qui avait ici donc été spécifique à cette période du XXe siècle. Par conséquent, donc, on est allé de plus en plus loin. Et il y a eu donc des choses absolument aberrantes, notamment ce que l'on a appelé la théologie de la mort de Dieu. L'idée était lancée par un certain évêque anglican qui s'appelait Robinson et qui avait écrit un livre qui avait fait grosse impression en son temps, qui s'appelait en anglais « Honest to God » et qui avait été traduit en français par « Dieu sans Dieu », tout un programme. L'idée et force de l'évêque Robinson était que le monde avait vécu justement sur des mythes parce qu'il avait une pensée infantile jusqu'à notre époque moderne. Et l'époque moderne, on reprenait un petit peu ici l'idée des évolutionnistes de Darwin et autres, n'est-ce pas ? Le Teilhard de Chardin aussi, n'est-ce pas ? L'idée que, somme toute, l'homme maintenant arrivé à l'état d'âge adulte, il était capable de se défaire de tous les mythes religieux qui l'avaient encombré jusqu'alors, et il n'avait plus besoin justement de ces béquilles-là pour pouvoir marcher. Et par conséquent, il pouvait réaliser que Dieu était un mythe, l'idée de Dieu elle-même était un mythe, puisqu'on pouvait expliquer le monde sans Dieu, etc., et qu'on arrivait maintenant à un stade où on pouvait, en reprenant le mot de Nietzsche, il avait repris cette expression de Nietzsche, « Dieu est mort ». C'était la grande affirmation de Nietzsche, « Nous avons tué Dieu ». Eh bien, finalement, le bultmannisme a abouti à rejoindre Nietzsche, n'est-ce pas ? Dieu est mort. Et est née donc, dans la mouvance de l'évêque Robinson, toute une théologie que l'on a appelée la théologie de la mort de Dieu. Ça veut dire d'une religion athée, et on a vu apparaître des groupes de chrétiens athées. Bon. Du côté catholique, là aussi, il y a eu une évolution un peu semblable. D'abord, il y a eu Teilhard de Chardin au début du siècle. Teilhard de Chardin qui était un paléontologue, prêtre à paléontologue, et qui était à la recherche du fameux chaînon manquant. Et Teilhard de Chardin a essayé de faire une espèce de synthèse entre la foi catholique et puis la science moderne. Et il a, reprenant d'ailleurs les travaux de Bergson, qui était un philosophe juif très, très détaché des choses de Dieu, mais d'origine juive, et qui avait fini par se convertir au catholicisme, et qui avait écrit un ouvrage fort remarqué qui a servi de base à Teilhard de Chardin, l'évolution créatrice. L'idée était que, somme toute, la création, enfin la nature, disons plutôt que la création, puisque finalement Dieu est à l'origine, certes, de la nature, mais il est le Deus ex machina des Grecs, qui a donné la petite chiquenote de départ. Et puis après, bah, les choses se sont enclenchées toutes seules et elles suivent leur mécanique propre. Et Dieu ne peut plus intervenir dans sa création, on lui interdit d'intervenir dans sa création, donc le miracle est une impossibilité. Il n'y a que des causes naturelles qui peuvent expliquer les phénomènes. Mais il y a une évolution vers un mieux, du plus simple vers le plus complexe, et vers le surhomme de Nietzsche. Et là, on retrouve la fascination de Nietzsche sur ce siècle. Somme toute, on est passé de l'homme primitif, de l'homme de Néandertal, de l'homme de Cro-Magnon, à l'homo sapiens, mais l'évolution n'est pas finie. Et on va vers un surhomme, hein, l'apparition d'un surhomme. Mais maintenant, la grande différence, c'est que l'évolution se faisait par, comment dirais-je, son processus interne, tandis que maintenant, l'homme prend en main sa propre évolution. Grâce à ses sciences et à ses techniques, il va pouvoir créer lui-même ce surhomme. Et somme toute, il s'agit de réaliser un modèle qui nous a déjà été donné, c'est Jésus. Jésus est le surhomme qui va marquer justement l'humanité nouvelle qu'il s'agit de reproduire. Et lorsque ce surhomme se sera réalisé, manifesté, alors on ira vers un paradis terrestre, l'âge d'or, ce que Teilhard de Chardin appelle le point oméga. Bon, nous allons voir justement comment cette théologie de Teilhard de Chardin, qui a été condamnée par l'Église catholique d'ailleurs, officiellement, mais qui a été, malgré la condamnation officielle de Rome, a été professée par de nombreux catholiques, y compris des clercs. Elle l'est encore jusqu'à nos jours d'ailleurs, n'est-ce pas ? Nous allons voir justement toutes les dérives qui ont résulté de cette théologie de Teilhard de Chardin. Maintenant, pour revenir au protestantisme, dans justement aussi cette interaction réciproque à la fois de la théologie de Bultmann et de la théologie de Teilhard de Chardin, on a vu apparaître aussi maintenant toutes sortes de choses les plus aberrantes, quoi. Notre siècle a été vraiment, dans le domaine de la théologie, celui alors où on a exploré toutes les voies les plus bizarres. Une autre piste de réflexion a été la théologie de la libération. Après la théologie de la mort de Dieu, ce fut la théologie de la libération. La théologie de la libération est née en Amérique du Sud par les soins d'un théologien sud-américain qui s'appelait Leonardo Boff, et qui a essayé de faire une synthèse entre le christianisme et le marxisme. Il fallait évidemment qu'on en arrive là. Le marxisme était la grande idéologie du siècle, n'est-ce pas ? Ce qui était en même temps le plus grand rival du christianisme. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait toute une kyrielle d'intellectuels catholiques qui s'opposaient au marxisme et qui finalement disaient c'est le marxisme ou le christianisme ou le catholicisme. Et Leonardo Boff et tous les théologiens de la libération ont essayé de réconcilier les deux courants, et notamment parce que l'Amérique du Sud était évidemment un endroit où il y avait une pauvreté absolument effarante. Et les classes dirigeantes étaient catholiques. Et par conséquent, Les classes pauvres étaient évidemment un terreau extraordinaire où le marxisme pouvait prenait comme un feu dans une brousse chauffée à blanc, quoi. Et bon, c'était l'époque de la révolution cubaine, c'était l'époque de Che Guevara, c'était l'époque de la révolution du Nicaragua, etc. Des mouvements révolutionnaires qui agitaient l'Amérique du Sud et qui étaient marqués essentiellement par le marxisme. Et les chrétiens, ont pensé que, de fait, l'injustice commise par les chrétiens complices et de l'Église officielle, complices des classes dirigeantes, était quelque chose qui était intolérable et que, par conséquent, le marxisme était finalement une manière de protestation qui rejoignait la foi chrétienne. On lisait dans la Bible la libération, par exemple, du peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte, la libération des esclaves, le jubilé, la libération qui est en Jésus-Christ, la glorieuse liberté des enfants de Dieu dont parle Paul, etc. Et par conséquent, l'idée était qu'il fallait rejoindre, que le marxisme était le moteur de l'évolution, finalement, qui menait vers le point oméga, et là, il y avait à nouveau une reprise des travaux de Théard de Chardin, qu'il fallait donc que les chrétiens s'engagent aux côtés des marxistes, et il reprenait le fameux mot d'Aragon, vous savez, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, fraternellement unis, ce que les marxistes appelaient les idiots utiles, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, les marxistes avaient bien compris que là, ils avaient tout à gagner de cette théologie de la libération, et ils appelaient Georges Marchais et d'autres, les chrétiens, à rejoindre la lutte des classes, la lutte pour la libération, et etc., etc., etc. Bon, nombre d'intellectuels chrétiens dans le dernier quart du XXe siècle, après mai 68 notamment, se sont laissés séduire par ces sirènes marxistes et marxisantes. Et alors on a vu apparaître des groupes de chrétiens marxistes, chrétiens pour le socialisme, etc., pour la révolution, notamment après mai 68, ça a été alors un véritable raz-de-marée, n'est-ce pas ? La Fédération protestante, en 1968, a publié un texte de réflexion qui s'appelait « Église et pouvoir » et qui reprenait grosso modo les thèses de la théologie de la libération, à savoir que les réformes étaient insuffisantes pour amener des changements significatifs dans la société. Il fallait changer les structures et l'Évangile. On ne pouvait pas être fidèle à l'Évangile si on ne s'engageait pas dans la révolution, finalement, parce qu'il n'y avait que la révolution qui pouvait changer ces structures. Révolution, disait marxisme, quoi. Alors évidemment, il y a eu aussi des réticences très fortes. Il y a eu alors, dans ces années qui ont suivi mai 68, il y a eu alors des affrontements très durs entre courants pro-marxisants et anti-marxisants, justement, dans toutes les églises. Toutes les églises ont été marquées par ces courants, le catholicisme y compris. Le catholicisme qui a vu, donc, d'une part, l'expérience des prêtres ouvriers qui avaient tous à peu près, en tout cas la grande majorité, qui avaient viré au marxisme, de telle sorte que le pape a dû arrêter l'expérience. Il y a eu des mouvements de jeunesse, notamment la JOC, Jeunesse Ouvrière Catholique, qui ont été gagnés par la théologie de la libération, à un degré moins de la JEC, Jeunesse Étudiante Catholique. Différents mouvements et organisations diverses se sont créées au sein du catholicisme pour militer justement en faveur d'une révolution de type socialiste et marxiste, etc. Bon, de telle sorte que la victoire aussi de la gauche en France en 1981 s'explique en grande partie par le fait que nombre de jeunes chrétiens catholiques, n'est-ce pas, avaient rejoint le socialisme. D'ailleurs, souvent le socialisme étant le dernier palier avant l'abandon de la foi tout court. Beaucoup ensuite se sont retrouvés complètement détachés de toute foi. L'Église catholique s'est rendue compte assez rapidement du danger et a essayé de freiner des quatre fers cette évolution. La théologie de la libération a été officiellement condamnée par Rome, mais ça n'a pas empêché évidemment des chrétiens marxistes de continuer leur action. Le dernier en date étant l'évêque Gaillot, n'est-ce pas, qui est le dernier avatar de cette évolution-là, que l'Église catholique a fini maintenant par phagocyté, si j'ose dire, et à neutraliser, notamment après la chute du mur de Berlin. On sait que le pape Jean-Paul II a été un des grands artisans de la chute du communisme avec le président Reagan. Ils étaient en contact permanent, n'est-ce pas ? Et Jean-Paul II et Reagan ont été des hommes suffisamment lucides qui se sont rendus compte que l'édifice marxiste, l'édifice soviétique qui paraissait extrêmement impressionnant à l'extérieur était en fait lézardé de l'intérieur, comme rongé par des termites, qu'il suffisait de donner quelques secousses pour le faire s'effondrer. Et alors il y a eu une collusion, un véritable complot qui a été mené entre les Américains et le Vatican pour détruire le communisme de l'intérieur et qui a réussi magnifiquement, comme on le sait, puisque le marxisme s'est effondré effectivement comme un château de cartes, comme les deux compères s'en étaient bien rendus compte. Donc à partir de là, ça a été grosso modo quand même la fin du communisme et la fin du marxisme. Sauf en France, bien sûr, mais partout ailleurs, le marxisme a été complètement déconsidéré, de telle sorte qu'il ne représente plus maintenant un courant théologique significatif et qui menace qui que ce soit dans le christianisme. La parenthèse est pratiquement fermée, mais l'alerte a été chaude. Par contre, maintenant, on a des théologies autres aussi qui sont nées. Par exemple, la théologie noire. Le 20e siècle a été celui aussi de l'évolution des missions. On aura l'occasion de voir ça quand on étudiera les missions, et notamment l'idée de la contextualisation. Bon, la contextualisation, c'est une chose que les missions occidentales ont découverte autour de après la Première Guerre mondiale, disons grosso modo, quoi. Hein. Et la nécessité de laisser les cultures locales s'exprimer dans la liturgie, dans les formes de culte, etc. Un certain nombre de choses. Bon, jusque-là, rien à redire, c'est absolument légitime, bien sûr, et c'est profondément biblique. Mais à partir de la décolonisation, c'est-à-dire des années 60 essentiellement, un certain nombre de théologiens africains notamment, mais aussi sud-américains, mais c'est surtout un phénomène africain, ont essayé d'imaginer une théologie noire. Alors, par exemple, on représentait le Christ noir, avec la peau noire, etc., l'apologie de la négritude. On était aussi un petit peu dans une dimension de la théologie de la libération, parce que tout ça, ça jouait quand même, dans la mesure où les Africains considéraient qu'ils avaient à se libérer de la tutelle des Blancs, c'était l'époque de la décolonisation, et que affirmer donc leur identité était une forme de libération par rapport justement à un christianisme occidental qui leur avait été apporté par les Blancs. Bon, on avait évidemment le même mouvement aux États-Unis, c'était l'époque des grandes bataille pour l'égalité des Noirs, avec le pasteur Martin Luther King qui, lui, était parfaitement orthodoxe. Il était baptiste, mais il était dans la stricte orthodoxie baptiste. Mais autour de lui, et après lui notamment, il y avait des gens qui sont allés beaucoup plus loin et qui ont essayé de, notamment en Afrique, n'est-ce pas, d'intégrer dans le christianisme des coutumes africaines. Donc on est tombé petit à petit dans une sorte de syncrétisme entre le christianisme et les religions africaines traditionnelles. Les cultes des esprits, des cérémonies diverses qui avaient à voir avec des rites parfaitement idolâtres. Notamment, c'était le cas dans les années 60-70 au Tchad, où il y avait des séances d'initiation à des vieilles coutumes africaines qui étaient rendues obligatoires, y compris dans les églises, ce qui a amené d'ailleurs des tensions vives avec les missionnaires occidentaux qui ont essayé de toutes leurs forces de s'opposer évidemment à cette évolution. Il y a eu des schismes qui ont découlé justement de cette cassure, et des églises entières ont viré à ce syncrétisme. Un certain nombre d'églises de ce type-là continuent encore à exister, même si elles ont mis pas mal d'eau dans leur vin. C'est le cas, par exemple, de l'église kimbanguiste au Zaïre et d'autres églises du même ordre, n'est-ce pas ? Bon, l'église kimbanguiste aujourd'hui fait partie officielle du COE, du Conseil communautaire des églises. Bon, elle s'est pas mal assagie, mais pendant un temps, elle a été très, très marquée justement par ses coutumes traditionnelles, et disons le païen, qui était justement celle de l'Afrique traditionnelle, l'Afrique pré-chrétienne, disons. Alors, bon, ça aujourd'hui aussi, la mode en est un peu passée. Lorsque les excès de la décolonisation se sont quelque peu estompés, bon, bah, les excès de la théologie noire aussi, finalement, c'est un petit peu une espèce d'effervescence qui naît pendant un temps, comme la théologie de la libération, comme les chrétiens marxistes, comme les chrétiens athées. Bon, c'est pareil, c'est un peu des feux de paille, heureusement, hein, d'une certaine manière. Bon, autre mouvement aujourd'hui qui est encore, lui, extrêmement vivace, c'est la théologie féministe. Le XXe siècle a été aussi marqué par, entre guillemets, la libération de la femme. Les femmes sont parties à l'assaut de l'Église, qui est considérée comme étant un des derniers bastions qu'elles avaient à investir. Un certain nombre d'églises protestantes se sont laissées convaincre assez rapidement d'ordonner des femmes pasteurs. D'autres églises, l'église catholique d'abord, l'église orthodoxe, un certain nombre d'églises protestantes ont résisté et résistent encore farouchement à cette évolution. Et pour essayer justement de convaincre les récalcitrants du bien fondé de leurs revendications, est né donc tout un courant qu'on appelle la théologie féministe. Bon, selon ces dames, d'abord bien entendu, les femmes ont le droit d'avoir accès à tout, à toutes les responsabilités dans l'Église autant au même titre que les hommes, puisqu'il n'y a plus ni homme ni femme, et que les textes où la femme est interdite de prêcher sont des textes qui sont dans un contexte culturel qui n'est plus le nôtre, qui est issu d'un bonhomme d'ailleurs qui était anti-féministe, misogyne, qui était l'apôtre Paul, qu'elle qualifie comme tel, n'est-ce pas, se rendant pas compte combien justement Paul, au contraire, a fait une révolution extraordinaire en permettant aux femmes d'avoir accès à la prière, etc. Bon, ben ça c'est évidemment, ça c'est le propre de ces dames. Et alors, non seulement cela, mais alors, il faudrait aussi, comment dirais-je, féminiser la Bible. Et on est en train d'élaborer des nouvelles traductions de la Bible où Dieu sera désigné comme la mère, par elle et non plus par il, enfin des choses comme ça, c'est pas bon. Ça aussi, c'est un courant qui est né dans les années 70, après la fameuse crise de mai 68, enfin des 60s, disons, et qui continue sur sa lancée. Alors ça, c'est quelque chose, la parenthèse du féminisme est loin d'être refermée, et au contraire, il y a une accentuation de plus en plus grande, justement, de ce courant-là dans l'Église, même si, évidemment, il est quand même assez marginal et touche, finalement, un petit nombre de gens. Dernier courant théologique du siècle qui vient de s'achever, c'est le rapprochement avec l'islam. Le palestinisme, ça, il fallait s'y attendre, évidemment. Après le marxisme, la cause sacrée maintenant devant laquelle, autour de laquelle se rallient tous les progressistes et tous les gens bien pensants, c'est évidemment le palestinisme et l'islam. On redécouvre l'islam. C'est aberrant d'ailleurs de voir que une religion qui restait bloquée au Moyen-Âge, parce que c'est exactement cela, qui n'a pas évolué depuis le Moyen-Âge, a le vent en poupe maintenant dans certains milieux d'une telle manière que on essaie de voir, n'est-ce pas, un rapprochement possible entre l'islam et le christianisme, en arguant du fait que, somme toute, il y a des convergences, et alors on crée un peu partout ce qu'on appelle les fraternités d'Abraham, et les fraternités d'Abraham et des mouvements du même ordre ont été les points où s'est focalisé ce type de théologie. Finalement, bien sûr, il y avait en principe des juifs dans ces conversations qui étaient en principe tripartites, mais enfin, bien sûr, par la force des choses, les juifs étaient minoritaires. Et au bout d'un temps, bien, ça se bornait à être un dialogue islamo-chrétien. Ce dialogue islamo-chrétien, après 1967, donc après la guerre des Six Jours notamment, a pris fait et cause pour les Palestiniens, et donc contre Israël, a milité contre Israël, contre le sionisme, disons, tout en prétendant être ami des Juifs, prétextant du fait que, selon ce qui est écrit en charte palestinienne, le judaïsme n'est pas un peuple, mais une religion. Et que par conséquent, c'est par respect pour le judaïsme et pour rendre au judaïsme son honneur qu'ils sont antisionistes. Parce que une religion aussi pure, aussi belle, aussi respectable, aussi honorable que le christianisme et le judaïsme ne doit pas s'abaisser dans l'arène politique et à venir là se souiller avec ces choses bassement terrestres, bassement matérielles que la création d'un État politique, etc. Par conséquent, il faut rendre au judaïsme sa dignité en supprimant l'État d'Israël. Bon. Et les mouvements justement de dialogue islamo-chrétien ont été à la pointe du combat contre l'État d'Israël à partir de 1967 et ont abouti justement à la situation à laquelle on assiste aujourd'hui, à ce retournement de l'opinion publique contre l'État d'Israël. Et le rêve qui est sous-jacent à ces mouvements à cette théologie islamo-chrétienne, il y a même des théologiens qui ont écrit un livre qui s'appelle « L'intifada du ciel et de la terre », montrant que l'intifada est un mouvement de libération. Là, on est toujours dans la perspective un peu de la théologie de la libération. C'est un mouvement suscité par Dieu, etc. Il y a une espèce de récupération pour le palestinaïsme de la notion de peuple élu. Le palestinien est le pauvre. Jésus était palestinien. Et finalement, quand on tue un palestinien, un enfant palestinien, c'est Jésus qui est crucifié à nouveau. Le peuple palestinien est une espèce de peuple élu, un peuple messianique, et son triomphe apportera l'âge d'or sur la terre, etc., une sorte de millénium. Bon, il y a toute une mystique qui est née justement de cette vision du palestinaïsme qui a été lancée en 1969 à Beyrouth, dans le congrès des chrétiens de Beyrouth, qui a lancé des proclamations dans de cette manière, ce qui a emmené d'ailleurs un des responsables de cette réunion a participé lui-même à des attentats, l'évêque Hilarion Capucci, qui pour ce faire a passé une vingtaine d'années, je crois, dans les geôles israéliennes. Et qui, donc, à sa sortie, a été honoré d'un rang de... Il a eu une promotion au Vatican, etc. Bon. Et alors, on insiste aujourd'hui beaucoup sur les points communs qui unissent l'islam et le christianisme. Il s'agirait, en fin de compte, de revivre l'âge d'or andalou, le mythe de l'âge d'or andalou, où chrétiens et musulmans, et juifs, mais enfin surtout chrétiens et musulmans, vivaient en harmonie, en symbiose, et de faire du bassin méditerranéen une nouvelle Andalousie à l'échelon de l'Europe tout entière, n'est-ce pas ? Enfin, du monde européen et arabe, si vous voulez. Et alors, on assiste constamment, il y a des congrès, etc., qui vont dans ce sens d'une militance en faveur, justement, de ce rapprochement entre l'islam et le christianisme. Mais évidemment, bon, à Paris, il y a l'Institut du monde arabe, qui est un des grands centres de cette théologie de l'islamo-christianisme. Le problème, c'est que du côté islamique, on est beaucoup moins enthousiaste et on freine beaucoup cette évolution-là. C'est vrai que pourtant les chrétiens appellent de leur vœu. Alors évidemment, ce problème-là, il est toujours actuel, vous l'avez bien compris. Bon, alors on a vu que là, il y a eu toutes sortes de courants qui se sont manifestés théologiquement pendant le XXe siècle, souvent comme des feux de paille, heureusement, mais explorant en quelque sorte les choses les plus farfelues. Dans le même temps, il y a eu aussi des refus. Il y a eu des gens qui ont contré, n'est-ce pas, cette évolution-là. Bon, s'il est vrai que maintenant toutes les grands courants du XIXe siècle ont pénétré dans la plupart des courants théologiques européens et occidentaux, officiels du moins, notamment la théorie des sources de Wellhausen, ou pour une grande part le bultmannisme, même si on est revenu, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle le post-bultmannisme. Même Robinson s'est rétracté, n'est-ce pas, disant qu'il était allé trop loin dans son livre, etc. Il est revenu à des vues beaucoup plus évangéliques, mais comme disait Lénine, Lénine, je crois, mentons toujours, il en restera quelque chose. Et de fait, il reste quelque chose de toutes ces théologies, il reste quelque chose du bultmannisme, il reste quelque chose de la théologie de la libération, il reste quelque chose de Teilhard de Chardin, etc., du féminisme, tout ce qu'on voudra. Et alors, Il y a eu des endroits qui ont été des nids de résistance. Ce fut le cas, par exemple, à l'Université libre d'Amsterdam, alors que la Hollande était un des pays les plus touchés par tous ces différents courants. Et puis, l'Église norvégienne, l'Église luthérienne norvégienne, qui a résisté à Hitler et qui l'a fait grâce au caractère mystérieux du culte luthérien. Bien que les Allemands, beaucoup d'Allemands étaient eux-mêmes luthériens, mais il y a eu là, de la part de l'Église norvégienne, une résistance extrêmement vive. En Scandinavie également, il y a un théologien qui est un homme ambigu. Alors lui, il s'appelle Søren Kierkegaard, à la fois théologien et philosophe d'ailleurs. Et il était à la fois moderniste, on a dit qu'il était un des pères de l'humanisme moderne, de l'humanisme athée que seront des gens comme Sartre, Camus ou d'autres. Bon, lui était un humaniste chrétien, mais enfin bon, il a fait du mal quand même à ce niveau-là. Et pour lui, par exemple, il niait la valeur du sacrifice de Jésus dans le domaine de l'expiation. Pour lui, c'était tout simplement Jésus qui avait remporté la victoire sur le diable, point. Mais l'expiation était un mythe dont il fallait se défaire. Par contre, il a eu par moments des choses très, très justes. Notamment, c'était le premier qui a été amené à faire la différence entre l'éros et l'agapé, qui est devenue aussi une notion théologique de ce temps qui est maintenant quasi répandue, n'est-ce pas ? L'éros, l'amour sensuel, l'amour tel que nos contemporains le conçoivent, c'est-à-dire l'amour possessif qui est égoïste et qui ne songe qu'à lui-même, et puis l'agapé, qui est au contraire l'amour tel que Paul le définit dans le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, c'est pas l'amour qui se donne. Kierkegaard a eu cette phrase très forte, il a analysé la faillite du christianisme. Il s'est rendu compte que le christianisme était en pleine déliquescence, bien qu'il vivait au début de ce siècle, dans la première moitié du siècle, n'est-ce pas ? Mais il avait été assez lucide pour voir la déliquescence du christianisme, et il a vu ce diagnostic extrêmement lucide. Ce sont les théologiens qui sont responsables de cette situation-là. Et de fait, on constate qu'à la fin du siècle et au début de ce siècle-ci, les idées qui étaient celles de quelques théologiens qui finalement formaient des petits cénacles, et ces idées-là ne sortaient guère beaucoup de ces cénacles, sont maintenant arrivées sur la place publique. Notamment par des émissions telles que Arte, Corpus Christi et des choses comme ça, c'est pas ces théories bultmanniennes, par exemple, de toutes les théologies que nous avons évoquées là, sont arrivées maintenant dans le grand public. Et le grand public, évidemment, c'est toujours la même chose, il faut un temps de retard pour que les idées des élites arrivent dans le grand public. Et maintenant, le grand public est persuadé, on est arrivé à ce tour de force-là qu'avait fort bien vu Kierkegaard, que le christianisme ne vaut pas un fifrelin, que c'est un tissu de mythes et que c'est complètement désuet, c'est complètement dépassé, c'est complètement obsolète, et qu'il n'y a plus rien à attendre du christianisme, grâce aux théologiens que dénonçait Kierkegaard. Ça, il avait vu juste, n'est-ce pas ? Et à la fin du siècle, ça s'est absolument accompli. Voilà, si vous voulez, pour maintenant, le courant théologique. Nous en avons fini. Bien entendu, on pourrait détailler tout ça, mais enfin... Bon, aussi peut-être, si, un dernier point intéressant sur ce reflux. Le post-bultmannisme a été mis à mal par des travaux des sciences bibliques. Et ce fut le cas notamment après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'on a découvert les fameux documents de Qumran, les manuscrits de la Mer Morte. Ça a été une révolution extraordinaire dans le domaine des sciences bibliques, pourrait-on dire, n'est-ce pas ? Dans un premier temps, un certain nombre de théologiens anti-chrétiens, pourrait-on dire, si tant est qu'on puisse être théologien et anti-chrétien, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots, il faut le voir comme ça, ont essayé d'exploiter ça à fond pour dire que le christianisme n'était qu'un avatar de l'essénisme. Et alors, il y a eu une théorie fumeuse, n'est-ce pas, qui ont prétendu que Jésus n'était qu'une pâle imitation du maître de justice qui était considéré par les gens de Qumran comme le Messie, qui était mort et qui était ressuscité, dont on attendait le retour au dernier temps, etc. Enfin bref, tout un ensemble de choses semblables. Bon, Les défenseurs de cette thèse étaient un savant français qui s'appelait André Dupont-Sommer, un anglais qui s'appelait John Allegro, et d'autres encore. Et finalement, bon, l'affaire a fait long feu très rapidement quand on a étudié d'un peu plus près les documents de la mère morte. Des gens comme Roland Devaux, le père Roland Devaux, qui était le fondateur de l'école biblique des Dominicains à Jérusalem, qui a beaucoup travaillé sur cette question, a montré que jamais le maître de justice n'avait été considéré comme le Messie. Jamais on avait affirmé qu'il était ressuscité. On n'attendait absolument pas son retour au dernier temps. Il a montré qu'il y avait d'énormes différences entre le christianisme et l'essénisme, bon, etc. À la fin du siècle, on n'est même plus sûr que les gens de Qumran soient des Esséniens. Finalement, un demi-siècle d'études qumraniennes ont montré que on est en plein brouillard en ce qui concerne l'identité des gens de Qumran, et que un grand congrès mondial sur tous les spécialistes des manuscrits de la mer morte qui a eu lieu à Jérusalem l'an dernier a montré combien diverses étaient les opinions qu'avaient les grands spécialistes sur les gens de Qumran. Ce qui veut dire que là, on est guère beaucoup plus avancé qu'au moment de la découverte des manuscrits de la mer morte sur ce plan-là. Par contre, sur le plan de la critique biblique, évidemment, alors ça a été une révolution extraordinaire. D'abord, on a trouvé des textes bibliques qui étaient en tout point semblables à ceux qui étaient beaucoup plus vieux de 1000 ans, donc c'était une confirmation extraordinaire de la fixité du texte biblique. Donc automatiquement, c'était une pierre terrible, que dis-je, une pierre, un véritable rocher dans le jardin de Bultmann. On a découvert, alors ensuite des savants israéliens se sont mis aussi dans la partie, notamment le professeur Flusser, le professeur Yadin et d'autres, n'est-ce pas, et ils ont montré l'enracinement juif du Nouveau Testament, et comment le Nouveau Testament, bien loin d'être un écrit hellénistique qu'on aurait habillé d'un espèce de vernis juif, était au contraire à fond enraciné dans le terreau d'Israël, et que l'on ne pouvait pas comprendre le Nouveau Testament si on ne connaissait pas, si on ne le resituait pas dans son environnement juif de la fin de l'époque du Deuxième Temple. Et alors on a vu, à la fin du siècle dernier, un extraordinaire essor des études juives, des études justement des rapports entre le judaïsme et le Nouveau Testament, notamment dans le catholicisme, beaucoup plus dans le catholicisme que dans le protestantisme d'ailleurs. Le protestantisme restait très marqué par Bultmann, et puis le catholicisme était aussi marqué par l'impulsion que lui avait donnée Jean-Paul II. Il y a un magistère, il ne faut jamais l'oublier, dans l'Église catholique, qu'il n'y a pas dans le protestantisme. Et il y a eu alors, jusqu'à ces dernières années, un formidable intérêt au milieu catholique pour les études juives, les origines juives du Nouveau Testament. L'école biblique dominicaine de Jérusalem a contribué à cela, mais aussi donc une maison Saint-Ésaïe qui se trouvait à Jérusalem, qui était l'ancien couvent de Ratisbonne, et où alors tout un ensemble, les plus grands savants catholiques d'archéologie venaient se former, etc., et étudier sur place ces choses-là. Depuis quelques années, à nouveau, il y a un basculement dans le sens inverse, et la maison de Saint-Isaïe vient d'être fermée par ordre du Vatican, sous l'influence, semble-t-il, justement, de la théologie islamiste. Hein. Mais pendant tout un temps, il y a eu cette redécouverte qui n'a pas contribué pour peu d'ailleurs à un recul de l'antisémitisme au milieu catholique. Ça aussi, ça a contribué pas mal quand finalement les théologiens catholiques se sont rendus compte à quel point Jésus et les apôtres étaient juifs, étaient enracinés dans leur terreau, et ils se sont rendus compte aussi à quel point il était difficile pour un chrétien d'être antisémite, voire anti-judaïque à la manière traditionnelle. Mais maintenant, sous l'influence du conflit israélo-arabe, de la théologie islamique et pro-palestinienne, n'est-ce pas ? Bon, il y a à nouveau actuellement un revirement, semble-t-il. Là, c'est à suivre. Bon, là, trop tôt pour dire de quel côté va osciller le balancier véritablement. Mais actuellement, il semblerait qu'il y ait un retour dans le mauvais sens, hélas. Bien, alors, parmi ceux qui ont contribué aussi à ce travail d'érudition, il faut citer le professeur André Parot, d'origine protestante, fils de pasteur, lui-même théologien, qui est devenu un des plus grands archéologues de ce début de siècle, qui a été, notamment fouillé le site de Racham Raugarit, puis de Mari, en Haute Mésopotamie, et qui est devenu conservateur du musée du Louvre jusqu'à sa mort. Citons également, alors évidemment, tout le gros travail qui a été effectué dans le domaine de la recherche biblique, alors dans l'archéologie par les Israéliens, ça, il faudrait des livres et des livres pour mentionner tout cela, par The American School of Oriental Research, qui avait été fondée par le grand archéologue Albright, qui était lui-même fils de pasteur méthodiste, et qui a créé donc une école à Jérusalem, qui a été le père de toute l'archéologie israélienne, dans ce sens que tous les archéologues israéliens, les plus grands, Aharoni, Yadin, Mazar, Avigad, j'en passe et des meilleurs, ont été formés justement par Albright. Citons également aussi le pendant donc de cette école américaine qui a été créée aussi à Jérusalem par Miss Kathleen Kenyon, qui était une archéologue aussi de grand talent et qui a fouillé un certain nombre de sites tels les Jéricho en particulier. Donc il y a eu tout un travail d'érudition, et plus près de nous, alors on pourrait citer le professeur Thiet, papyrologue, qui a travaillé sur les fragments de papyrus trouvés dans les documents de Qumran sur le Nouveau Testament, prouvant justement l'authenticité du Nouveau Testament. Une juive dont le sang n'a fait qu'un tour au vu des émissions de Corpus Christi et des mensonges que ces émissions distillaient, et qui, elle, en tant que juive, n'était pas du tout concernée par cela, mais simplement par le simple amour de la vérité, a voulu rétablir les choses et a travaillé notamment sur l'évangile de Jean. Il s'agit de Madame Jacqueline Jolot-Bismuth, qui est professeure à Sorbonne et qui est spécialiste des études juives de l'époque Deuxième Temple et de l'époque du Moyen-Âge, et dont les travaux feront l'objet du prochain Kéren, pour ceux qui s'intéressent. Voilà. Donc, en gros, si vous voulez, voilà pour ce travail d'érudition qui a eu lieu pendant ce siècle. En dehors, donc, des pays nordiques, des pays luthériens, citons maintenant aussi la Belgique. La Belgique était un pays essentiellement catholique, mais dans lequel une implantation protestante a eu lieu pendant ce siècle d'une manière importante, enfin relativement importante du moins. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le pasteur Morton a créé ce qui est devenu la Mission évangélique belge, qui, comme son nom l'indique, avait pour but d'évangéliser la Belgique, avec l'aide évidemment des anglo-saxons. L'essentiel du protestantisme belge est soutenu par les anglo-saxons, soit la Grande-Bretagne, soit depuis quelques années, beaucoup plus, les États-Unis. Et en 1919, cette mission évangélique belge est devenue l'Église chrétienne belge, et avant de devenir la mission évangélique unie, l'Église évangélique unie de Belgique, qui est le protestantisme officiel là-bas, ce qui correspond, si vous voulez, en gros, à l'Église réformée ou une fédération protestante beaucoup plus structurée. À côté de l'Église évangélique unie, il y a des églises non rattachées donc à ce courant qui est quand même un courant plutôt luthéro-réformé, disons, et aussi une relativement importante implantation pentecôtiste, notamment d'origine anglo-saxonne, et soutenue par les anglo-saxons qui ont installé à Waterloo, si vous préférez, à côté de Bruxelles, une école biblique qui est l'école biblique continentale dans laquelle ils entendent former des natives, comme ils disent, des indigènes, c'est-à-dire des Européens qui sont évidemment des gens un peu primitifs pour des Américains qu'il faut évangéliser, etc., qu'il faut former. Bon, ça marche pas très bien, finalement, parce que les natives sont un petit peu renaclent un peu à être considérés comme ça, et ils préfèrent avoir leur propre structure, sauf les Belges, qui, eux, se contentent assez bien de cette situation-là. Bien. Même chose en Italie, où le protestantisme s'est installé à la fin du XIXe siècle, en profitant du conflit entre l'État italien et la papauté. Malgré donc un coup d'arrêt sensible qui a été donné à l'expansion du protestantisme à l'arrivée au pouvoir de Mussolini qui a donc signé un concordat avec la papauté, et parmi les conditions du concordat il y avait la lutte contre le protestantisme. Donc jusqu'à l'écroulement du fascisme en 1943, la progression du protestantisme en Italie a été stoppée. Après la guerre, il a repris, aussi soutenu par les missions anglo-saxonnes en particulier, bon, pour être aujourd'hui minoritaire, finalement, comme il l'est dans tous les pays latins, Belgique, France aussi, bien sûr, comme nous le savons. En Espagne, alors, le protestantisme a aussi dépendu des vicissitudes politiques de ce pays, qui était alors un des plus fermés de l'Europe et un des plus catholiques, intolérants, intransigeants que l'Europe ait connu jusqu'au XXe siècle. Bon, au début du XXe siècle, vous savez comment l'Espagne s'était fermée, coupée de l'Europe, pourrait-on dire, après les guerres napoléoniennes en particulier, se voulant le bastion pur et dur du catholicisme, jusqu'au moment où des révolutions ont marqué le XXe siècle en Espagne, le début du XXe siècle en particulier. D'abord, il y a eu les révolutions de Primo de Rivera, une espèce de pronunciamiento militaire, n'est-ce pas, qui avait pour fin, pour but d'établir une république ouverte justement aux idées nouvelles, aux idées de l'Occident, et est né en Espagne au début du siècle un courant libéral, pro-occidental, extrêmement important, extrêmement puissant. Puis ensuite, le marxisme a pénétré profondément dans ce pays. Bon, il y a eu révolution et contre-révolution, restauration d'un pouvoir autoritaire, d'une monarchie, etc., jusqu'au début des années 30, où donc la gauche l'a emporté. Et donc, l'Espagne est devenue une république. Une république, disons. Ce faisant, elle a ouvert ses frontières à l'évangélisation et notamment les anglo-saxons, les missionnaires anglo-saxons, se sont empressés de se rendre en Espagne. Il y a donc eu, dans les années 30, une réimplantation protestante en Espagne. Réimplantation qui, comme vous le savez, a été malheureusement de courte durée, puisque en 1936, un pronunciamento très gauchiste et très marxiste, très intolérante aussi, finalement. Et les chrétiens, les protestants espagnols étaient pris entre le marteau et l'enclume, à la fois entre les excès des rouges et les excès des noirs, des fascistes. Une guerre terrible s'en est suivie, vous le savez, de 1936 à 1939, à la suite de laquelle les fascistes l'ont emporté, et le général Franco a établi une dictature proclamant le catholicisme religion d'État et supprimant les autres religions. Il y a eu une véritable persécution sanglante, même, n'est-ce pas, des chrétiens espagnols, jusque pratiquement la chute du franquisme. Bien que dans les dernières années du franquisme, il y avait déjà eu un certain nombre d'accommodements. Malgré donc cette situation où on peut dire que dans les premières années du franquisme en particulier, le véritable rideau de fer s'était abattu entre l'Espagne et puis le reste de l'Europe, protestante en tout cas, n'est-ce pas, et des contacts ont pu être maintenus clandestinement dans une église qui est devenue une église clandestine finalement. Et dans l'Europe francophone, il y avait une organisation qui s'était créée pour venir en aide justement aux chrétiens protestants espagnols, s'appelait Prohispania, qui était une émanation à la fois des chrétiens suisses et des chrétiens français, notamment de l'Église réformée, qui avait secouru justement les chrétiens pendant la guerre civile, et ensuite pendant la guerre mondiale, les chrétiens espagnols. Et ainsi, une église souterraine a pu subsister. Lorsque l'Espagne s'est plus ou moins ouverte, après la chute du nazisme, après la Deuxième Guerre mondiale, Franco a essayé de se rapprocher des États-Unis, voulait même entrer dans l'OTAN, etc. Finalement, les États-Unis ont mis comme condition une libéralisation du régime. Donc il y a eu une certaine libéralisation du régime. En 1967, un décret a été publié par les Cortes, c'est-à-dire par l'équivalent du Parlement, proclamant une espèce de, pas vraiment une liberté religieuse, mais enfin des accommodements. Finalement, le gouvernement a fermé les yeux sur des églises qui ont fini par avoir pignon sur rue, qui avaient leurs propres édifices, leurs propres bâtiments, leurs propres pasteurs rémunérés, etc. Beaucoup de pasteurs, d'ailleurs, n'étaient pas rémunérés, travaillaient. pour servir de couverture aussi. Et finalement, bon, il y a eu une tolérance de fait, mais quand même avec des tracasseries extrêmement nombreuses. Bon. Ça a duré jusqu'à 1975, la mort de Franco, et le nouveau régime a proclamé, avec l'arrivée de Juan Carlos et de son régime, la liberté totale religieuse en Espagne. Bon, cette liberté est théorique, enfin, elle est réelle, elle est réelle, et on a pu le constater, mais enfin, bon, certains sont moins égaux que d'autres, quoi, il faut bien quand même reconnaître. L'Église catholique est plus égale que les autres Églises, et notamment depuis le retour au pouvoir d'un régime de droite, le régime actuel d'Aznar, puis on profite des problèmes de secte aussi pour serrer la vis aux églises espagnoles. Bon, le protestantisme espagnol est quand même extrêmement, extrêmement peu nombreux, d'abord parce que sa résurrection est très récente. Le mouvement qui était de loin le plus dynamique était le mouvement gitan. Il y a eu d'abord un démarrage extrêmement lent donc du mouvement gitan espagnol, étant donné qu'il y avait une très importante population gitane en Espagne. Et dès les années 60, il y a eu des tentatives justement en plein régime franquiste d'évangéliser l'Espagne. Il y a eu des miracles d'ailleurs assez retentissants qui ont d'ailleurs provoqué l'arrestation des missionnaires français, des gitans français qui avaient été emmenés là-bas et qui se sont retrouvés dans les geôles espagnoles. Il a fallu l'intervention de Pastor Cossec directement et des autorités consulaires françaises, ambassades, etc. pour faire libérer ces gens-là qui ont été expulsés, interdits de séjour, interdits de retour en Espagne. Après donc les dernières années du franquisme, eh bien le réveil parmi les gitans a démarré comme un feu de paille, irrésistible. Quelque chose était absolument stupéfiant. J'ai pu le voir un an après la chute du franquisme, 1976. C'était, comme disait le frère Cossec, un des plus beaux réveils qu'il ait jamais vu. Et là, il y a eu donc des milliers de gitans espagnols et de non-gitans qui ont été touchés. Bon. Par la suite, évidemment, d'autres difficultés sont venues. La fameuse bénédiction de Toronto, l'influence aussi de missionnaires venus d'Amérique du Sud, d'Argentine en particulier, qui eux-mêmes étaient marqués par justement les Américains du Nord, les Yankees, qui ont amené justement cette fameuse bénédiction de Toronto, enfin toutes les aberrations, de telle sorte que il y a maintenant un net refroidissement aussi du réveil en milieu gitan espagnol. Voilà donc, si vous voulez, en gros, pour ce qui est de l'Espagne. La même chose a eu lieu en Amérique du Sud. Amérique du Sud, où des régimes fascisants étaient au pouvoir au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le régime de Juan Perón en Argentine, des régimes extrêmement durs, par exemple en Colombie, surtout la Colombie, Équateur, mais surtout la Colombie. Et là, donc, il y a eu des persécutions sanglantes de chrétiens qui avaient été convertis par des missionnaires américains, nord-américains en particulier. Il y a eu même des mises à mort en Colombie, une véritable persécution sanglante en Colombie, dont les autorités catholiques officielles du Vatican avaient connaissance et à propos desquelles elles n'intervenaient pas. Il a fallu attendre Vatican II pour que les persécutions violentes en Amérique du Sud cessent. Cessent du moins officiellement, soient condamnées par Rome. On sait que jusqu'à aujourd'hui, elles se poursuivent d'une manière non officielle, mais qu'il y a encore aujourd'hui des chrétiens mis à mort en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, ou notamment au Brésil, dans les années 60, alors un extraordinaire réveil aussi a eu lieu, notamment parce que l'Église catholique étant complètement déconsidérée, comme l'avait bien vu Leonardo Boff, le pentecôtisme en particulier était reçu à bras ouverts. Et on calculait que à partir des années 60, au Brésil en particulier, mais aussi dans d'autres pays voisins, mais surtout le Brésil qui a été marqué par ce réveil, il y avait une église par jour qui s'ouvrait, une église pentecôtiste ou évangélique qui naissait chaque jour. Et c'est par millions maintenant qu'on compte le nombre de protestants évangéliques en Amérique du Sud, ce qui irrite fort le pape, qui ne manque jamais une occasion quand il va en Amérique du Sud de crier haro sur ce qu'il appelle les sectes évangéliques, avec un certain succès d'ailleurs, puisqu'il y a des persécutions qui en découlent, Mexique aussi en particulier. Des pays d'Amérique du centrale tels que le Nicaragua, pas le Nicaragua, le Guatemala, Costa Rica, je crois, ou d'autres pays, sont en passe d'avoir une majorité protestante, de basculer à fond. On comprend que les autorités catholiques y voient un peu rouge, n'est-ce pas, dans cette situation-là. Et bien qu'aujourd'hui beaucoup d'aberrations nord-américaines aussi se soient instaurées là-bas, n'est-ce pas, il y a le mouvement, l'élan évangélique, et pentecôtiste en particulier, charismatique, se répand. Pour le contraire, les catholiques ont essayé aussi de mettre en avant leurs fameux mouvements charismatiques, et des prêtres catholiques ont été formés à utiliser toutes les techniques des télévangélistes américains. Ils ont leur propre satellite artificiel, ils ont créé leur propre cellule de prière, etc., pour essayer de combattre à armes égales avec les évangéliques, les charismatiques, les pentecôtistes qui sont à l'œuvre en Amérique du Sud. Donc ça, voilà, c'est ce qui concerne l'Amérique du Sud. Bon, Autriche-Hongrie, Tchécoslovaquie, entre les deux guerres aussi, c'était évidemment toute implantation protestante était interdite dans ces pays-là. Et donc il a fallu attendre la fin de la guerre mondiale et le démembrement donc de l'Empire austro-hongrois pour que ces pays s'ouvrent à l'évangélisation. En Russie, le siècle a été marqué aussi par un réveil des baptistes très important. Et à côté de l'Église orthodoxe officielle, souvent persécutrice d'ailleurs, on a vu apparaître alors aussi des mouvements évangéliques extrêmement nombreux. C'est par millions que les baptistes donc existent, baptistes ou apparentés, parce que finalement le vocable baptiste en Russie recouvre un peu toutes les dénominations évangéliques. Elles avaient été obligées de se rassembler sous un chapeau unique pendant la période du communisme en particulier. Que dire encore ? Un mot de ce qui touche aussi l'action sociale. On a vu se développer au XXe siècle aussi toutes sortes d'organismes et d'œuvres d'action sociale très importantes, souvent aussi motivées parfois justement par le marxisme, n'est-ce pas ? Par exemple, la Croix-Bleue, qui a été créée par le pasteur Rocha en Suisse, à l'image de la Croix-Rouge, qui était une action cette fois-ci de relèvement des buveurs. On pourrait citer bien d'autres choses. Citons aussi un effort de psychologie religieuse qui avait pour origine le docteur Paul Tournier de Genève. Etc. Il y a eu toute une effervescence très importante. C'était à ce niveau-là un siècle extrêmement riche. Bien, en Prusse, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a eu un rapprochement entre luthériens réformés, de sorte que les réformés, qui étaient souvent des descendants des huguenots français, souvenez-vous, ont rejoint l'Église luthérienne officielle. Il y a eu des mouvements de réunification donc, qui ont eu lieu pendant le siècle. Même chose aussi au Canada, où les différents mouvements protestants historiques, disons, se sont rassemblés pour former l'Église évangélique unie du Canada, du Québec, essentiellement. Les grandes dénominations ont pris conscience d'une certaine mondialisation aussi. Vous savez que l'Église protestante, depuis le XVIe siècle, était essentiellement des églises nationales. Et à partir du début du siècle, se sont créées des espèces de fédérations ou des rassemblements qui ont groupé toutes ces différentes églises nationales dans des alliances ou des confédérations ou des fédérations qui avaient alors cette fois-ci un caractère mondial. C'est ainsi qu'on a vu naître l'Alliance réformée mondiale, qui groupait toutes les églises réformées, presbytériennes, etc. L'Alliance baptiste mondiale, les conférences mondiales de Pentecôte, nous en avons parlé quand nous avons parlé des mouvements de Pentecôte, etc., etc. Donc, voilà en gros, si vous voulez, comment on peut résumer assez schématiquement l'évolution donc du protestantisme au XXe siècle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ces...